Salut, ici Denis Talbot.
Frank the Tank.
Ian Richards.
De l'émission Radio Talbot. On espère que vous aimez l'émission que vous écoutez en ce moment. Ça s'appelle Réalité Augmentée avec JB Gagné, Luc Desormeaux et Daniel Carosella. C'est pas les meilleurs, mais sont sympathiques. Et j'espère qu'ils vont nous payer.
Shut up and take my money!
Salut tout le monde, bienvenue à la réalité augmentée, la techno à un autre niveau. Jean-Benoît Gagné, votre animateur de ce beau programme. Et pour m'accompagner encore une fois cette semaine, j'accueille Luc Desormeaux.
Salut.
Et Daniel Carosella.
Jean-Benoît, bonjour.
Bonjour, bonjour. Vous allez bien les boys?
Grippé, mais oui, on va survivre.
Toi Daniel?
Non, moi j'ai eu un rhume cet hiver. Et là, je sais que je vais sonner très vieux parce que je vais sonner comme feu mon grand-père, mais il est rough cette année, le rhume. Donc, je l'ai juste pogné une fois, puis je veux pas le repogner.
La grippe est tough cette année.
Ah, non, mais sérieusement, elle est tough.
D'entrée de jeu, les gars, je veux saluer la gang de Parlons Balado. Hier, ça veut dire à un moment donné, dans le temps, avant qu'on enregistre cet épisode-là, pour les auditeurs qui nous écoutent en différé,
on enregistre. Genre le 18 février.
Là, genre le 18.
De l'an 2014.
Ouais. Si vous écoutez ça en 2015, sachez que ça fait vraiment longtemps. Là. Mais si vous écoutez ça en 2014, ben, ça fait pas très longtemps. On était donc les invités du podcast Parlons Balado, qui est un genre de... c'est juste la TV. Eux autres, ils parlent de la TV. Ben, Parlons Balado parle de... De balado.
De girafe.
Oui, aussi. Ouais, on a eu du fun avec les boys. On a fait découvrir un peu notre vision du domaine du podcasting. Moi et Luc, on était là. Daniel a dû s'absenter pour des raisons personnelles. On le pardonne. On te pardonne.
Écoute, j'étais pas prêt à sacrifier ma santé mentale.
Ah, écoute, non, on te comprend. On te comprend.
Un show par semaine à notre compagnie, c'est assez.
Oui. Puis, en fait, il y avait pas mal de monde à la messe anyway dans le show. Donc, ça vous tente, Parlons Balado. Vous trouvez ça sur les intertubes, sur iTunes aussi. Cherchez ça là, dans Google, vous allez le trouver. Ça sera pas ben compliqué. Sinon, Sir Maximum, c'est lui qui gère le projet, va vous indiquer ça. Vous n'avez qu'à le chercher là, sur Twitter. Il va vous indiquer comment trouver le show. Donc, on a eu ben du plaisir, ben de la rigolade à faire cette émission-là. Donc, je tenais à les saluer. C'est un beau projet. On est content d'avoir pu y participer, d'avoir pu y donner un peu de notre soutien. Aussi grand soit-il ou aussi petit, c'est selon.
Aussi petit.
Ouais, aussi petit. Donc, sachez que c'est approuve de la réalité augmentée, le projet Parlons Balado. Et on leur souhaite longue vie à leur beau projet qui essaie de faire découvrir l'univers du podcasting au plus de gens possible. Et là, ben, pour commencer le show, revenons à notre émission. C'est bien beau Parlons Balado, mais il y a une réalité augmentée à faire. On débute avec nos fails de la semaine. Daniel, c'est plus ou moins un fail. C'est comme adouci un peu cette semaine. Tu voulais nous parler de ce qui se passe avec l'entreprise Irrationals Game qui va fermer ses portes.
Ouais, non, j'en avais pas de fil cette semaine. Pour être honnête, là, j'en avais pas. C'est pas à défaut d'avoir cherché. J'ai cherché, puis on dirait que tout va bien.
Ah, le monde est beau.
Le monde est beau, ouais, c'est ça. Tu sais, non, tout va pas bien. En tout cas, parce que, je parle quand même d'une fermeture de studio. Mais, je sais pas, le monde est beau, le monde n'est pas niaiseux cette semaine. C'est le fun de même. Fait que, oui, Irrational Games, on a appris récemment que Kevin Levine, donc la tête dirigeante du studio, allait le fermer. Puis pour ceux qui ignorent qui est Irrational Games, ben c'est un certain studio derrière la certaine franchise Bioshock. Mm-hmm. Donc, quand même une série à succès. Ce que j'ai aimé avec Irrational Games, c'est qu'ils ont jamais perdu leur qualité au niveau des produits. Tu sais, ça a toujours été des bons produits qu'ils ont lancés. Bioshock, le premier, était très, 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 très bon. Le deuxième, un peu moins, mais c'était quand même un bon jeu.
Ben, le deuxième était excellent, mais ils se sont enfargés dans les fleurs du tapis en voulant absolument mettre du multijoueur.
Ouais, c'est ça.
Qui n'avait pas sa place, mais le deuxième, il y avait j'ai plus trippé sur l'expansion qu'il y a eu pour le deuxième, qui était l'antre de Minerve,
ouais.
Plus que le jeu en tant que tel, parce que le punch de la fin de cette histoire-là était vraiment écœurant.
Ouais, non, ben c'est ça que je dis, tu sais, Irrational Games n'a jamais vraiment perdu de sa qualité au niveau de la production des jeux vidéo.
Ouais.
Et le dernier jeu qui ont lancé le démontre très bien, c'est BioShock Infinite. En tout cas, moi, j'ose pas dire que c'est le meilleur BioShock, mais pour moi, il a égalé le premier. Là, parce que, bon, le premier, mon préféré, demeure pour moi la première expérience de la série BioShock, qui est la meilleure dans mon petit cœur. Mais c'était très, très bon. Et là, pour moi, ça a été quand même une surprise d'apprendre qu'Irrational Games, compte tenu de l'historique, compte tenu du succès de la série BioShock, allait fermer ses portes. Mmh. Moi, ça me questionne à savoir qu'est-ce qui va arriver avec la série. Je pense pas qu'elle va disparaître.
Ils vont certainement vendre les droits. Je peux pas croire qu'ils vont laisser ça mourir.
Je suis pas
sûr. Ça doit appartenir à 2K.
Ça appartient à 2K. Moi, je pense que 2K va plutôt diriger la série vers un de ses autres studios internes.
Okay.
Ce qui est peut-être pas nécessairement une bonne chose, je ne sais pas. Il y a un autre studio peut-être interne de 2K qui va pouvoir la reprendre puis qui va pouvoir faire des produits qui vont être à la hauteur de l'excellence de la franchise. Mais en même temps, quand tu changes de main, puis quand tu n'auras plus Kevin Levine à la tête, parce que Kevin Levine, on s'entend qu'il s'est donné à fond pour cette série-là, j'ai un peu peur pour la suite des choses concernant BioShock. J'espère que la série disparaîtra pas, mais j'espère aussi qu'elle perdra pas en qualité.
Ben, tu sais, 343 Industries l'ont fait avec Halo en reprenant le flambeau, une série phare pour Microsoft, et ils ont fait ça de belle façon. Ils ont été en mesure de présenter des jeux d'aussi bon niveau, sinon meilleur que ce qui était fait auparavant. Donc, il y a des histoires à succès comme ça qui ont déjà existé, et à l'inverse, il y a des histoires où est-ce qu'on s'est planté, donc on espère que ça va tomber du bon bord.
Il y a de l'espoir. Merci Jean-Benoît de nous donner de l'espoir. Ah, je comme sais.
Ça dépend de ce qui va ramasser ça. Mais,
c'est ça. Mais je voulais aussi en profiter pour parler d'une certaine tendance que j'observe depuis quelques années, parce que Kevin Levine ne se retire pas de l'industrie du jeu vidéo. Il va partir un plus petit studio. Donc, avec quelques employés, il va partir sa propre... Ben, en fait, un autre business. Et c'est une tendance que j'observe depuis quelques années, à savoir que on part beaucoup de petits studios, puis il y a beaucoup d'initiatives qui ont été entreprises pour justement aider ces petits studios-là. On n'est plus à l'époque où il fallait absolument faire affaire avec un grand distributeur pour lancer des jeux sur le marché. Là, maintenant, avec il y a eu beaucoup d'initiatives au niveau des développeurs indépendants pour les mettre leurs jeux sur le marché. On pense au marché Xbox Live, au PlayStation Network, surtout avec la PlayStation 4, mais on pense aussi à Steam. Là. Steam a quand même...
Il y a Kickstarter aussi qui a aidé à démocratiser le financement des projets.
Oui, absolument. Je m'en allais vers ça.
Non, je te coupe l'herbe au-dessus du pied.
Tu regardes une compagnie comme Double Fine qui est capable de faire des jeux incroyables, même si c'est pas, tu sais, énorme master, là, je veux dire.
Non, c'est ça, tu sais. On n'est plus à l'époque des grands distributeurs où ce qu'il fallait fallait que tu aies beaucoup d'employés pour produire des jeux AAA, pour espérer avoir ta place sur le marché. Aujourd'hui, avec le marché du monde digital, on est en mesure de créer des plus petits studios et de lancer nos propres jeux sur différentes plateformes.
Mais là, Kevin Levine, est-ce que c'est sa nouvelle boîte, ça va être indépendant?
Aucune idée.
pour vrai, on dirait que c'est tellement en mode ce terme-là qu'il y en a qui se lancent là-dedans juste parce que le terme est hot, puis il y a comme une aura de bonté alentour de ça. Là.
Ouais.
Ben moi, j'ai l'impression que oui, ça va être indépendant, dans le sens que Kevin Levine va probablement fonder une nouvelle compagnie qui va être attachée à aucun distributeur en tant que tel. Mais c'est clair que quand un studio qui est dirigé par Kevin Levine, compte tenu du succès qu'il a rapporté dans l'industrie, ben tu pars quand même avec une certaine longueur d'avance.
Puis en même temps, ça permet de remettre le compteur à zéro. Il n'y a plus les mains attachées, il n'est plus obligé de faire affaire avec les gens avec qui il faisait affaire auparavant. Il y a vraiment carte, il y a ce qu'il veut là, dans les mains, il y a tous les outils qu'il veut pour pouvoir développer le jeu qu'il veut sans avoir la pression de qui que ce soit à l'extérieur de lui-même. Là.
Ouais, c'est un peu ce que Peter Molyneux aussi avait fait, tu sais, on se rappelle, Peter Molyneux, ça a été pendant plusieurs années le dirigeant de Lionhead Studios, puis à un moment donné, c'était juste Fable, tu sais, donc Peter Molyneux était connu pour Fable, puis c'était des Fable un après l'autre, puis à un moment donné, il a décidé de...
puis de moins en moins bon, quand plus que le chiffre montait.
Il voulait se faire mettre dehors.
Voilà. Non, mais là, il a fondé, je pense que c'est 22 Cans, son nouveau studio. En tout cas, bref, ça, c'est pas vraiment une histoire qu'il faut suivre. Là. Ou, en tout cas, c'est pas un modèle.
On espère que ce sera pas ça pour Kevin Levine.
Ben, non plus, j'espère. Les rumeurs, ça, c'est que son studio va s'appeler Rationnel Studio au lieu de Irrationnel. Il est rendu rationnel maintenant.
Ça se peut. Ça
moi, là, quand tu crées un jeu où il faut que tu pioches un cube pour atteindre le centre parce qu'il y a une grosse surprise au centre, puis que finalement, cette surprise-là, c'est que ton nom va pouvoir être dans le prochain jeu du studio dont on ignore tout. Je sais pas. En tout cas, bref, c'était pas un fail en tant que tel, c'était déception. Plus une nouvelle triste. Ouais. Ben, tu sais, c'est pas une déception dans le sens je suis triste pour Kevin Levine. Tu sais, c'est pas une faillite là qu'il a faite non plus.
Non, il a décidé de mettre la clé dans la porte.
C'est ça. Tu sais, il a décidé de mettre la clé dans la porte quand le studio était au pic de son succès. C'est dommage pour les joueurs que nous sommes. J'espère. En tout cas, comme on s'est dit, j'espère juste que la franchise BioShock va être reprise entre de bonnes mains.
Ouais. On le souhaite.
Peut-être qu'il a voulu arrêter juste avant que BioShock devienne comme juste un autre shooter. T'sais, un peu comme les Call of Duty, ça fait le même.
Peut-être.
Peut-être. C'est toujours bon d'arrêter à ton pic.
Ah ouais. Il y a trop souvent des gens qui l'oublient, ce bout-là.
Ouais, d'arrêter quand que t'as pressé le citron et il ne reste plus rien dedans.
Je ne sais pas si...
Nous, on n'est pas arrivé à notre pic, c'est ça, je comprends.
Non, ben en fait, je me demande si on en a un.
Peut-être qu'on pourrait se tenir bien un citron sec.
Peut-être aussi, c'est selon. Mais je me demande, je fais un lien ici, je me demande si la gang derrière Forza, eux autres, ont atteint le top, puis c'est à la veille de descendre, parce que là, ben ils ont présenté avec la nouvelle Xbox leur nouveau volet, Forza 5, dont je ferai la critique dans le prochain élément. Ça va dépendre, on a peut-être une invitée, donc soit dans le prochain ou l'autre d'après. En tout cas, suivez-nous, vous allez voir. Je ferai la critique
un jour,
de Forza 5.
D'ici la fin de l'année, JB va faire la critique.
Éventuellement, ça viendra. Forza 5, je voulais en parler un peu parce que je trouve ça très, très drôle. Il y a cette tendance-là, de plus en plus, des développeurs de jeux de nous présenter des jeux qui sont pas complets, des jeux où est-ce qu'on va te vendre des packs avec des nouvelles armures, des nouveaux personnages, des épées. Des bouts de jeux supplémentaires, les fameux DLC, des microtransactions à l'intérieur, tout ça là. Ben, Forza n'a pas fait exception. Le nouveau Forza 5 est, on dirait une version édulcorée, on dirait une version émincée de ce que Forza 4 offrait comme contenu en termes de nombre de pistes, de nombre de véhicules. On est loin, loin, loin de ce qu'offrait le 4 aux joueurs. C'est quand même un jeu intéressant, c'est quand même un jeu qui en offre beaucoup, j'ai des heures et des heures et des heures de course derrière la cravate sur ce jeu-là. Et on a
combien de kilomètres?
Je sais pas exactement mon nombre de kilomètres, mais je sais que je suis rendu genre level 75. Tu sais, ça a comme plus de bon sens, là. Et Forza ont décidé, la gang derrière ça, donc Microsoft, ont décidé de sortir une couple de chiffres par rapport à leur nouveau jeu. Il y a plus de 653 millions de miles virtuels, donc à peu près 1,045 milliard de kilomètres qui ont été parcourus, soit 49 fois le tour de la Terre, 8 millions d'heures, 66 millions de design. Dans le fond, ils se pètent les bretelles avec des chiffres bien, bien le fun. Et ils nous présentent, à la suite de cette annonce-là, une nouvelle piste. Ils disent « Ah, pour vous remercier du succès, on vous donne une nouvelle course. » La question que je me pose aujourd'hui dans ce beau programme qui est la réalité augmentée, c'est « La course était-tu déjà dans le disque? On l'a-tu amputé du jeu de base juste pour pouvoir nous offrir un simili-nanan à mener dans le cours de vie du jeu? » Je trouve ça plate. On aurait pu l'avoir au départ. Probablement que la course est codée, est faite, est prête depuis des siècles et des siècles. Amen. Puis là, on nous la présente. On se trouve une raison. on avait statué, ah, c'est telle date, on sortira des chiffres, tu sais. Puis on fera ça comme un party, alors qu'en réalité, il n'y a pas de nouvelles, là. Y a pas, tant qu'à moi, il n'y a rien, là. Puis en même temps, on nous dit, ah, il y a un nouveau pack de chars, là, vous avez le droit d'acheter 5 voitures pour un montant X.
Tu sais, on donne le droit d'acheter ouais. des chars.
Non, mais je trouve ça plate, tu sais. Dans le temps, là, j'achetais un jeu, puis il était au complet, là. Ouais. J'avais ma cartouche de NES, là, puis le jeu était tout là. Il y avait des bugs qui restaient, ça c'était un côté plus plate, mais en même temps, on le sortait quand il n'y en avait plus ou qu'on espérait qu'il n'y en avait plus. Tandis que maintenant, on se dit, on fera une rustine, on fera une mise à jour, pas bien grave. Ou on vend des titres morcelés, on vend des jeux avec le contenu téléchargeable déjà dessus, mais faut payer pour débloquer la partie supplémentaire. J'aime pas ça, ce bout-là de la business qu'on est.
Y a beaucoup de jeux qui ont utilisé ça. Je pense entre autres à Arkham City, tu sais, le pack Catwoman, qui était juste débloquable quand t'achetais le jeu, et neuf, et non pas usagé. Ben, le pack était sur le disque.
Ben oui.
Mais il fallait quand même que tu downloads un. Ben, je sais pas si c'est un patch, ou en tout cas, il fallait que tu downloads une espèce de mise à jour pour débloquer le contenu qui est sur le disque. Puis il y a plein de jeux comme ça où ce que on s'est rendu compte que le contenu qu'on nous vendait était déjà sur le disque, mais était comme barré par un code. Puis dans le fond, le patch que tu, ou en tout cas le DLC que tu pensais downloader, c'était pas le DLC en tant que tel, c'était pour débarrer le code sur le disque.
Mais ils font ça par pure bonté. Ils veulent pas que tu dépenses ta précieuse bande passante pour télécharger quelque chose. On te le met déjà sur le disque.
Ils sont tellement fins.
Pour rien, les gars.
Ils sont fins.
C'est de la bonté. C'est juste du gros bon sens.
La question que je me demande, là, théoriquement, là, on jase. Là. Mettons, là, j'achète un jeu. Mais on prend l'exemple. Là, Arkham City. Là, on vient d'en parler. Il y a un bout du jeu qui est barré, qui est sur le CD. Mettons, j'achète le jeu. Et je hack le jeu pour avoir accès à la portion qui est bloquée. Que normalement, je devrais avoir seulement si j'ai acheté le jeu neuf, mais que usagé, j'y ai pas accès. Est-ce que l'entreprise peut me poursuivre? Et si c'est le cas, est-ce qu'elle a vraiment raison? Est-ce que le juge lui donnerait raison de le faire?
Moi, je sais pas, Jean-Benoît. Je sais pas, OK? Mais je sais que tu vas brûler en enfer parce que t'es malhonnête.
Sûrement. Ouais,
c'est ça, je me dis moi aussi.
C'est une très bonne question. Sérieusement, je ne sais pas.
Tu sais, légalement, là, qu'est-ce qu'un juge statuerait là-dessus?
Ouais, mais déjà là, si tu hacks le jeu pour avoir accès au contenu, c'est parce que tu as hacké ta console.
Ouais.
Ouais, mais la console.
ou que tu l'as acheté sur PC et tu as téléchargé une patch quelconque sur un site douteux. Qui va te passer un petit virus entre-temps pendant que tu ramasses ça. Puis,
ouais, mais c'est peut-être moi qui l'ai
développé. Ton jeu est plus légal parce que t'as modifié le code.
Ouais, mais mettons là, que c'est moi qui l'ai développé, le hack là, pour la situation précise. Là. J'achète le jeu de pleine bonne foi, puis on me barre une partie que j'ai juste accès si. Tu sais, on jase. Là.
Ouais, mais là, t'es rendu dans la science-fiction, toi, écrire un hack, là.
oui, ça arrivera Excuse-moi, pas, là.
C'est ça. Non, je sais pas. Théoriquement, t'as pas le droit de modifier du code que quelqu'un d'autre a écrit. Ils appellent ça du reverse engineering. T'as pas le droit de prendre du code, l'analyser pour le défaire. Fait que déjà là, t'es contre la loi, théoriquement.
OK.
Est-ce qu'un juge pourrait, je sais pas, là... Ça, en même temps, c'est plus ou moins mon domaine là, dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire le crime, là, comme on le sait.
Oui, et toi, c'est plus comme... c'est comme plus de à la main, là. C'est du vol à la tire, vol de banque.
C'est ça. C'est toutes ces belles activités. Mais je me demande si un juge, je sais pas, étudierait le cas plus sous l'angle de violation de droits d'auteur, peut-être?
Peut-être.
Je sais pas, tu sais, c'est une très bonne question. Merci Jean-Benoît de nous fendre la tête le soir quand on est à l'heure d'aller dormir.
Ouais,
c'est
ouais.
Vraiment le
fun. Je fais de même, hein?
Surtout moi qui ai ces médicaments, ça va être super le fun si je commence à penser à ça à 2h du matin.
Bon, ben écoute, changeons de sujet d'abord.
On peut-tu plugger Nintendo? Tant qu'à être,
Ben j'allais parler des consoles de nouvelle génération. Il y a des chiffres qui sont sortis. PS4, 5,3 millions d'exemplaires à travers la planète. Chiffre qui date du 8 février, donc ils ont quand même une dizaine de jours. Tandis que Microsoft, la One, 3,9. Donc, on parle d'un écart qui est assez minime, merci, là. Mais ça, ça date du mois de janvier. Tout le monde se pète des bretelles, tout le monde est fin, tout le monde est beau, mais il n'y a pas de jeu. Fait que attendez avant de l'acheter.
Moi, ouais, c'est ça.
Non. Attends, je tiens à rectifier ton dire, là. Il n'y a pas de jeu, mais il n'y a pas de PS4 non plus en magasin.
Même chose pour la One, c'est tellement compliqué. En tout cas, tout ça pour dire que si vous avez l'occasion d'attendre, là, faites donc ça. Vous allez sauver de l'argent tout de suite. Des jeux vont être moins chers, les premières sorties. Puis vous allez avoir une vidéo ludique pas mal plus remplie, accessible au moment de votre achat.
Moi, j'ai hâte de voir que ça va faire, mais qu'elle sorte au Japon, la PS4. Hein?
Ça risque d'être un beau stress test pour les serveurs.
Ouais.
Il y a une masse mais assez importante
de monde. Je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle, Nintendo le sait, là, que la PS4 va sortir au Japon. Donc, il annonce une vente de feu sur la eShop pour essayer de contrecarrer.
Ouais, ça va faire mal à Nintendo. Hein.
Un petit peu peut-être.
Parlant de Nintendo, je pense, Luc, que tu as quand même une annonce.
Oui, il y a un événement. Ils vont être à Montréal, joue.
Ouais, Montréal joue qui va se dérouler le 22 février prochain. C'est à la Grande Bibliothèque à Montréal. C'est au 475 boulevard de Maisonneuve-Est. Ils vont présenter plusieurs jeux pour la 3DS puis la Wii U. Donc, pour la 3DS, soit Mario Party, Island Tour, Legend of Zelda, Link Between Worlds. Pour la Wii U, vous allez pouvoir essayer le prochain Mario Kart 7 pour la Wii U, Super Mario 3D World, Wii Party U, puis Donkey Kong Country Tropical Freeze qui va sortir comme la journée d'avant sur le eShop. Donc, allez faire un tour, allez rencontrer Julie, dites-lui bonjour, puis allez essayer les jeux de Nintendo. C'est le 22 février de 13h à 17h.
Belle petite plug, ça. Allez-y si vous êtes proche. Ça va être une belle occasion de vous familiariser avec les prochains titres de Nintendo.
Ouais, c'est toujours le fun quand Nintendo est à quelque part. C'est toujours bien organisé. C'est toujours, tu sais, t'as des consoles en masse pour pouvoir l'essayer. C'est sûr que ça dépend toujours combien de monde se présente. Là. À l'événement de Zelda, il manquait de consoles, le nombre de personnes qu'il y avait, mais ça aurait été impossible d'avoir plus de consoles que ça. Mais allez faire
un manquait pas de pluie, hein?
Non, il manquait pas de pluie, par exemple. Ça, c'était correct. Non, ça, c'était assez trempe. On aurait pu faire un niveau d'eau dans Mario de cette journée-là. On aurait pu nager avec les poissons. Puis tout le kit. Mais non, c'était assez humide, mettons.
Un beef-pointé Zelda, c'était carrément.
Ouais, mais aller faire un tour, ça vous allez avoir beaucoup de plaisir. Malheureusement, moi, je peux pas y aller cette journée-là. Mais allez-y, puis allez rencontrer Julie, puis allez essayer les jeux de Nintendo.
Luc, on va y aller avec toi, avec ta critique de cette semaine. C'est d'ailleurs un jeu sur la Wii U, un jeu que souvent le monde, c'est soit, écoute, on l'encense, soit on n'est pas content, on n'est pas heureux de ce jeu-là. The Wonderful 101, qui est un titre assez fort chez Nintendo, on misait beaucoup sur ce jeu-là.
Oui, c'est un titre, on pourrait le qualifier comme extrêmement japonais. Si vous aimez les animations japonaises et tout ça, vous allez peut-être triper. Moi, j'ai trouvé que c'est un jeu qui était quand même intéressant, mais je suis quand même assis sur la clôture sur le fait, est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas. C'est un peu nébuleux, mais vous allez voir, ma note totale est quand même bonne. Donc, c'est quoi Wonderful 101? Ben, on joue le rôle de super-héros. Il y a plusieurs super-héros qu'on va incarner. On peut changer de super-héros dépendant de la mission qu'il faut qu'on fasse. On commence en jouant le rôle de Wonderful Red, parce que c'est toutes des Wonderful et une couleur quelconque. Quand j'ai commencé à jouer, je me suis dit, tabarnouche, il faut qu'on cherche, parce que c'est Wonderful 101, mais pour de vrai, c'est les Wonderful 100. C'est les merveilleux 100, le 101e, la personne de plus, c'est toi avec ta manette de jeu.
Ah, ben oui.
Donc, on t'inclut dans le titre du jeu. C'est merveilleux. Ton nom est sa boîte. T'es le 1. Donc, c'est on commence par jouer Wonderful Red. Là, j'ai commencé à jouer ça. Puis là, tu t'avances un peu dans les missions. Puis là, tu deviens Wonderful Blue. Puis là, je me suis dit, OK, on a 100 de même affaire. Ça veut dire quoi? À la fin, je vais être le Wonderful Fuchsia Foncé, le Wonderful Mauve Pâle.
Bleu coup d'orange. Il y aura 100
couleurs, tu sais. À un moment donné, on va être des teintes. Mais non, c'est pas comme ça que ça, pas comme ça que ça fonctionne.
OK, c'est bon.
Donc, on avance. Ce que j'ai vraiment pas aimé du jeu, c'est qu'on... Daniel le joue aussi, va pouvoir soit être d'accord avec moi ou soit me sacrer des claques virtuelles. on te laisse vraiment à toi-même. Là. C'est bonne chance pour apprendre comment que les contrôles fonctionnent. On t'explique que bon, avec ton joystick de droite, de gauche, tu contrôles ton personnage, puis avec ton joystick de gauche, tu peux créer des formes où tu peux utiliser les personnages qui sont dans ton, bon, on appelle ça une équipe pour faire certaines choses. Tu peux les utiliser pour faire des ponts, des choses comme ça. De la manière que ça fonctionne, les 100 personnages, il y a un groupe de vraiment super-héros. Les autres personnages, pour se rendre jusqu'à 100, c'est des civils qu'on ramasse au fur et à mesure qu'on fait des missions, on les embarque, ils deviennent super-héros. C'est marqué super-héros temporaires.
C'est des wonderful wannabes.
C'est ça, qui sont là pour t'aider. Mais c'est intéressant, puis ça fait que la mécanique est quand même le fun, puis c'est quand même drôle. Donc, le joystick de droite va te servir pour faire des constructions que tu as besoin de faire dans le jeu. Faire un pont, faire une échelle, ça va aligner tes personnages pour pouvoir qui se rendent au-dessus du building, puis ils deviennent une échelle, ils se transforment en échelle, puis toi, tu montes. Donc, ça rend la mécanique vraiment le fun, mais ça rend aussi ça un peu compliqué parce que tu n'as pas le contrôle vraiment de la position de la caméra. Et par bout, c'est vraiment pénible parce que tu passes en arrière d'un objet, puis là, on a fait quelque chose de brillant qui est, on va mettre une transparence à travers de l'objet où tu es pour que tu vois où ce que tu es rendu quand tu passes en arrière du building. Au lieu de changer la caméra de côté, ben mettons, la bâtisse devient en partie transparente avec une genre de loupe, puis là, on suit où ce que tu es. C'est vraiment dur de te diriger. Y a des missions où on rentre à l'intérieur d'un building et là, ça vient juste presque impossible à contrôler ton personnage. Là. Daniel, on en parlait un peu avant le show. Il y a une section où tu rentres dans un stade, il faut que tu aies débarré une porte. La caméra, c'était enlignée pour moi pour regarder le plafond. Les escaliers, faut que tu regardes tes pieds pour voir où est rendu l'escalier pour sortir de là. J'ai vraiment travaillé fort pour me rendre à la porte parce que j'avais aucune manière de m'enligner à part de regarder le plafond puis les fenêtres, tout ce qui était placé, me rappeler comment que la pièce était faite pour m'en retourner là. Donc, les jeux de caméra, quand on rentre dans des bâtisses où on utilise le gamepad, parce qu'à un moment donné, le gamepad devient la caméra où tu vois ton personnage, puis la télé devient juste comme tu vois l'extérieur du building où ce que t'es. C'est pas fantastique, là. Puis c'est ça, Daniel avait l'air à passer à la même affaire que moi pour ça, que par bout, la caméra, c'était un peu chambranlant.
Ça peut devenir chaotique. Le problème aussi avec The Wonderful 101, c'est que il y a de l'action, mais en tout temps. Ça n'arrête jamais.
Non,
il n'y a jamais de break. Puis ce que je te disais, c'est les Power Rangers sur l'acide.
Ouais, c'est Power Rangers, c'est stéroïdes. Là, c'est vraiment l'enfer. Ça n'arrête jamais. Le seul temps où ça arrête, c'est vraiment quand tu as complété un set de missions. Puis même là, on va te compter j'aime le sens de l'humour qu'ils ont mis dans le jeu, par exemple. C'est qu'on se prend pas du tout au sérieux. C'est vraiment des héros, mais c'est fois mille, là, où le gars il fait des gestes de kung-fu en avant-tout pour te montrer comment hyper puissant qu'il est en frappant des molécules d'air. T'sais, il frappe vraiment rien, là, mais il te regarde puis là, il crie son nom super fort. Là, « I'm Wonderful Red! » je le savais, mais c'est vraiment intéressant de même. Mais c'est ça, c'est du animation japonaise à la exagérée vraiment. Les passes où on te parle, puis c'est interminable. Le narrateur va te faire un speech interminable, mais c'est voulu. Puis on tourne ça en dérision à un moment donné, parce que tu as un personnage qui est dans les airs, puis il prend une position héroïque, t'sais, comme s'il volait ou il sautait super haut. Puis là, à un moment donné, là, le narrateur s'affiche sur l'image. Là, le narrateur parle. Puis là, tu vois, le gars, il est figé dans les airs, mais là, il se tourne la tête comme tu regardes en disant, t'as-tu fini? Puis là, le narrateur continue à parler, puis à un moment donné, le gars commence à branler dans les airs, puis à un moment donné, il fait juste tomber à terre, là, comme je suis plus capable de garder ma position, tu sais, c'est juste trop long que tu parles, fait que ça parle, c'est interminable, mais on utilise ça comme un gag, fait que c'est quand même drôle, ça fait quand même intéressant.
Ben, si vous voulez la meilleure caricature, la meilleure image pour vous montrer à quel point c'est une caricature, un peu de la culture japonaise, hein, tu sais, des gros héros flashy, là. Écoutez juste la première chanson du jeu. C'est vraiment, imaginez la toune la plus quétaine de héros, là.
Ouais.
C'est ça. Mais c'est voulu, là. C'est de l'humour, là. Bon enfant, tu sais, c'est pas comme si on avait mis quelque chose qui se prenait au sérieux. Puis
non,
là,
non,
on
fait
comme
moi.
Qu'est-ce que c'est ça? Non, tu sais, c'est un beau trip, moi, je trouve.
Tu regardes la pochette du jeu puis tu le vois tout de suite que ça se prendra pas au sérieux de la manière que les personnages sont faits et tout ça. Mais tu sais, même si tu parles de la toune du début, tu sais, quand t'écoutes les paroles, ça dit on va battre les méchants puis on va lui mettre notre poing en face. C'est d'un parole de la chanson. C'est vraiment juste, ça se prend pas au sérieux puis c'est vraiment comique.
Au départ, moi j'avais l'impression que c'était un jeu pour enfants.
Mais c'est pas vraiment
ça. Pourtant, non.
Non, tu donnes ça à des enfants puis ils vont juste se tanner tellement vite parce que on t'explique rien, vraiment. Là, on te lance dans le jeu. Puis la première mission, c'est qu'il faut que tu ailles sauver des gens qui sont dans un train qui est en train de dérailler parce qu'on sauve la Terre d'une attaque extraterrestre. Donc, on se promène. Puis là, tu marches dessus du train. Il faut que tu te rendes au bout du train. Puis là, il y a des extraterrestres qui t'attaquent. Mais là, on dit rien. Là. C'est comme frappe, bûche, fais tout ce que tu veux, mais il faut que tu te rendes au bout du train. Puis à un moment donné, il faut que tu fasses un pont avec les personnages que tu as ramassés en t'en allant. Parce qu'il est bien, c'est qu'avec le gamepad, on voit... Bon, les personnages qui sont avec toi. Puis après ça, on voit des personnages que tu peux rajouter dans ton équipe. Ils sont en point vert. C'est des civils que tu as sauvés. Tu prends ton doigt, puis tu fais un cercle alentour d'eux autres sur le gamepad. Puis là, ils deviennent, qui sont dans ton équipe, ils deviennent des super-héros. Puis là, tu peux te ramasser jusqu'à 100 personnes dans ton équipe. Okay. Après ça, tu utilises le joystick de droite. Puis tu peux faire un pont entre deux wagons de train pour passer l'autre côté. T'sais, tu peux t'en servir aussi. Ils deviennent aussi tes armes. Comme Wonderful Red, c'est un géant coup de poing. C'est les personnages qui sont dans ton équipe qui s'unissent. C'est ils appellent ça des Unite Morph. Parce que le jeu est seulement en anglais ou en japonais. Moi, j'ai choisi l'anglais, mais choisissez ce que vous voulez.
Étonnamment, j'ai
choisi l'anglais. Donc, les Unite Morph, ils peuvent devenir une main, ils peuvent devenir une épée, ils peuvent devenir un fusil. Puis ce qui est vraiment drôle, puis au début, tu comprends pas trop, tu dis, voyons pourquoi. Tu retrouves des personnages qui étaient dans ton équipe, qui sont assommés à terre avec des étoiles alentour de la tête. Tu te demandes pourquoi ils sont là, on ne s'est pas vraiment fait attaquer rien. Mais à force de fesser, des choses comme ça, ils débarquent du point que tu as construit avec eux autres, puis ils se ramassent à terre. Étourdi avec des étoiles, tu repasses par-dessus, t'es ramasses, puis ils reviennent dans ton équipe. Mais à un moment donné, tu fais un fusil avec le Wonderful Green, qui est une caricature incroyable d'un Français de France.
C'est mon préféré.
Blue, il est vraiment drôle, puis Wonder Blue l'appelle foie gras. Mais tu sais, c'est vraiment pas pire, ou le manger de croissant. Puis lui, il tire des balles avec un fusil géant qu'il construit. Mais les balles, c'est pas des balles. Les balles, c'est des personnes.
Ouais.
Fait que tu tires la personne. Puis là, à un moment donné, je me disais, voyons, pourquoi? C'est moi qui tire l'ennemi, puis c'est mes bonhommes qui se font maganer. Pourquoi? Là, tu réalises que la balle que je tire, c'est pas une balle, c'est un être humain. Puis là, il se ramasse à terre avec des étoiles, tu repasses dessus, puis là, tu peux. Il revient dans ton équipe. Faut que tu aies assez de personnages pour pouvoir faire tes constructions, tes points, ton épée, puis tout ça. Fait que ça amène une mécanique de jeu qui est super intéressante, mais d'un autre côté, ça vient compliquer aussi à un moment donné parce qu'on te donne pas vraiment d'indications sur comment faut que tu le fasses puis qu'est-ce qu'il faut que tu fasses.
C'est
t'es laissé à toi-même à essayer des choses pour voir si ça va fonctionner. Puis des fois tu réussis, des fois tu réussis pas. Des fois tu réussis, mais tu penses que le jeu t'a juste dit « Ah, t'es trop poche, je m'a te le donné. » Tu sais, fait que c'est dur à prendre en main. Mais un coup tu comprends que tu peux faire des constructions avec tes personnages puis que ça sert à quoi, ça devient un peu plus fun. Mais le jeu est tellement gros, c'est tellement t'sais, caricatural que t'embarques quand même dans l'histoire, puis c'est dur de pas avoir du plaisir à jouer à ça tellement que c'est over the top, comme on pourrait dire. T'sais, ça a comme aucun bon sens. Là. Okay.
Mais je veux juste ajouter de quoi, Luc, tu me diras si t'es d'accord ou non. Après tout, c'est ta critique. On parlait tantôt des problèmes de caméra, notamment quand tu rentres dans des bâtiments. Le problème aussi avec la caméra, c'est qu'elle est très loin des personnages. Donc, ce que ça fait, c'est que tes personnages peuvent devenir très petits. Puis quand t'es au milieu d'un combat, exemple contre un boss, ça devient très chaotique. Puis à un moment donné, tu peux juste perdre le fil, puis tu perds carrément la vue sur le personnage que tu contrôles. Fait que tu sais plus, puis là, ça revole de partout. Tu sais, t'as des personnages qui sont assommés qui revolent, t'as l'ennemi qui revole, t'as des explosions partout. Puis là, à un moment donné, tu sais juste plus où ce que t'es. Tu sais, t'es comme, est-ce que je suis à droite, à gauche? Je suis sorti de l'écran? Es-tu dans mon appart quelque part? Tu ne sais plus où ce que t'es. Ça, c'est un problème dans The Wonderful 101. C'est un jeu de Platinum Games, là. C'est éclaté comme un jeu de Platinum Games. Mais ça a son défaut aussi de savoir qu'à un moment donné, tu sais juste plus où ce que t'es.
Ouais. Ça, puis la caméra est tellement loin aussi, puis tes personnages qui t'aident, tes citoyens que t'as ramassés, ont tellement des looks différents. T'as des policiers, t'as des enfants, qu'à un moment donné, puis la caméra t'es tellement loin, à un moment donné, j'étais en train de me battre, puis là, j'ai tout tué les ennemis, puis là, je voyais des personnages qui avaient l'air à me suivre, mais ils me suivaient pas. C'était des petits extraterrestres qui venaient me taper dessus, mais moi, je le tapais pas dessus, parce que je pensais qu'ils faisaient partie de ma gang. Tu sais, t'as de la misère à dire, OK, ça, c'est des amis, ça, c'est des ennemis, à un moment donné, tellement que la caméra est loin, puis tellement qu'il y a du monde à l'écran, là. Quand t'es rendu que t'as 100 personnes qui te suivent partout, là, ça, tu sais, t'as dit, hey, les chiens de poche, là, ça vous tente-tu de me laisser respirer un peu? Mais, tu sais, c'est ça. Fait que ça, c'est un peu un problème. Les constructions, par exemple, c'est le fun à faire. T'sais, le poing, le fusil, l'épée, c'est correct, c'est assez puissant. Les ennemis, c'est pas nécessairement les plus gros qui sont les plus durs à battre. Des fois, c'est les petits qui ont de la meilleure armure. Mais c'est le fun, mais moi, j'ai pogné un bug à un moment donné où il fallait que je fasse une construction, puis peu importe ce que je faisais, ça a jamais fonctionné. J'ai jamais été capable de passer le niveau, puis je me suis juste tanné, puis j'ai mis de côté, j'avais juste plus le temps, puis j'ai pas réussi à passer le niveau parce que ma construction marchait pas. C'est-tu parce qu'il me manquait des personnages? À ce que je sache, j'avais mes 100 personnages, je les avais tous ramassés, puis j'étais pris dans une loupe où je pouvais plus vraiment rien faire. Mais, tu sais, j'aurais peut-être dû toffer encore plus, puis je l'aurais retrouvé ou le recommencer le lendemain, mais j'ai juste pas eu le temps. J'ai arrêté là, mais je veux dire, faut aimer, si vous aimez les Power Rangers, puis vous êtes vraiment fanatique de la culture japonaise et tout ça, vous allez vous retrouver là-dedans. C'est vraiment le fun, c'est vraiment, comme on dit, c'est vraiment over the top, c'est pété comme jeu, c'est amusant, ça joue en gang, vous pouvez jouer tout seul, comme vous pouvez jouer en multijoueur avec des manettes de Wii en plus. Je veux dire, vous allez avoir beaucoup de plaisir, puis j'imagine en gang, ça peut devenir assez amusant, mais ça peut devenir aussi tellement chaotique,
perdant,
parce que
ouais.
quand la caméra est loin, t'es où, t'es qui?
Hey, on invite les gens à avoir une grosse TV.
Ouais, mais tu sais, tu peux changer de personnage comme tu veux avec le gamepad. Tu t'appuies sur le plus, puis là, t'es capable d'aller changer de personnage en touchant l'écran. Si tu veux, le personnage avec l'épée, le personnage avec le fusil, le personnage avec le poing. Tous tes acolytes qui viennent à un moment donné, tu les vois apparaître sur ton écran, mais ils ont toujours les mêmes pouvoirs. Il n'y a pas vraiment de pouvoirs nouveaux. En tout, je pense qu'il y a une dizaine de pouvoirs que tu peux ramasser. Wonder Red, Wonder Blue, Wonder Green, Wonder Pink, Wonder Yellow, Wonder White, puis Wonder Black. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vrais héros, puis les autres reprennent les mêmes pouvoirs que ça. Mais c'est ça, c'est caricatural, c'est amusant. J'ai eu du plaisir pendant que je l'ai joué, mais il y a ses défauts. La caméra en est un, le fait qu'on te laisse vraiment à toi-même à débrouiller le grand.
Un tutoriel aurait été de mise.
Ça aurait été le fun d'avoir un peu de plus. Pas nécessairement te prendre par la main tout le temps, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui te prennent trop par la main et qui te disent toujours trop quoi faire. Mais dans ce jeu-là, j'aurais pris un peu plus de prends-moi par la main pour me montrer comment ça fonctionne et tout ça. Mais tu sais, un coup, tu comprends, si tu as pas mal de temps à donner au jeu, tu vas comprendre la mécanique, tu vas avoir du plaisir. Fait que je vais lui donner une note qui est quand même bonne. Moi, je vais lui donner un 7.5 parce que j'aime l'univers, j'aime ce qu'ils ont fait. Je pense que ça pourrait être une belle franchise, ça pourrait être une belle deuxième expérience s'ils règlent les problèmes de caméra, s'ils règlent un peu
le
tutoriel. Il y a un vrai gros potentiel pour ce jeu-là. Mais, tu sais, des fois, tu te dis, l'idée est super bonne, ça a été bien fait à 80% peut-être, puis il y a des petites choses qui auraient dû travailler. La caméra, c'est vraiment le pire pour moi, là. C'est vraiment ce que j'ai eu le plus de misère dans le jeu, parce que tu commences, puis t'es déjà loin, puis là, t'as de la misère parce que c'est une vue isométrique, c'est une vue de haut, de côté, puis on se rapproche pas vraiment beaucoup des personnages, fait que c'est toujours pas mal comme ça. Puis il y a du monde à la messe sur l'écran là, mais tu sais, il y a des affaires le fun comme vraiment grossir ton équipe en faisant un rond alentour d'eux autres sur ton gamepad, les choses là. L'ajout du gamepad est vraiment le fun aussi dans certaines choses, fait que c'est un jeu qui vaut la peine au moins d'être essayé. Mais c'est un jeu que je vous conseille fortement de louer ou de l'emprunter d'un ami avant d'aller dépenser le 60$ qu'il vaut peut-être, tu sais. Juste pour être sûr de votre choix. Parce que c'est un jeu que vous allez soit adorer, soit détester. Peut-être très peu de monde qui vont être un peu comme moi, sa clôture, qui, ok, je l'aime, mais j'aurais peut-être, tu sais, aimé mieux si ça aurait été ça, ça, ça. Mais belle qualité de production, c'est le fun. La musique est vraiment amusante, quoi qu'à un moment donné, elle tombe sur les nerfs parce qu'elle est toujours en boucle. C'est toujours la même musique en boucle à un moment donné. Là, ça serait le fun que la toune change, mais c'est pas tout ça le cas. Mais, c'est un gros film de super-héros qui se prend pas au sérieux.
Est-ce qu'on s'attache aux personnages avec des personnages aussi petits, peu de place dans l'écran? Est-ce qu'on finit par s'attacher quand même à ceux qu'on contrôle?
Plus ou moins, c'est des super-héros, t'as des cinématiques en chaque mission qui te donnent un peu de choses, mais on n'a pas de profondeur nécessairement à ces personnages. Il y a vraiment le Wonderful Red qui est notre premier personnage qu'on voit en tant que son alter ego, genre quand il est le Clark Kent là, au début, puis là que les extraterrestres attaquent, puis là il se transforme en Wonderful Red, là. Spoiler. Mais tu sais, c'est ça. Donc, c'est pas spoiler pantoute, juste sarcastique. Mais c'est ça. Fait qu'il y a à peu près ça, mais le restant, on connaît pas vraiment les personnages d'où ils viennent, ces choses-là. C'est pas vraiment important. C'est du pétage de marboulette tout le long. C'est tuer des extraterrestres, les frapper le plus possible. Mais tu sais, c'est drôle. Les méchants sont plus gros que nature. Sont arrogants, sont je suis meilleur que toi, puis je vais te le montrer, puis viens ici, je vais tout vous péter à marboulette. C'est ça. Ça se prend pas au sérieux, c'est le fun. Mais c'est un style de jeu qui plaira pas à tout le monde. C'est pour ça que je vous dis, louez-le ou empruntez-le pour l'essayer. Puis après ça, vous ferez votre idée. Si vous êtes sûr que vous tripez ce genre de jeu-là, allez l'acheter. Vous ne serez pas déçu. Il doit y avoir des moi, j'ai pas eu le temps de le finir, mais il doit y avoir des heures et des heures de jeu là-dedans, seul ou entre amis. C'est sûr que vous n'avez pour votre argent. Il faut juste être certain de savoir si vous allez vraiment embarquer puis aimer ce style de jeu-là.
Ouais, il faut être prudent.
Ouais. Mais c'est le fun.
Ouais, c'est le fun. Hey, d'ailleurs, le fun va être au rendez-vous, toi aussi, Daniel, avec Donkey Kong, une nouvelle aventure. Le jeu n'est même pas sorti, tu as eu la chance de le traverser. Donc, ça fonctionne, la recette est encore bonne.
Vu que moi, je vous offre des exclusivités des fois, ben, je vous en offre une en soir.
Ouais, c'est le fun.
Ouais, oui, non, c'est le fun. Ben oui.
Veux-tu une médaille?
Non.
Non, ok, c'est bon, parce que je n'avais pas.
Moi, je suis plus câlin, tu sais, câlin que moi. Moi, je suis un affectueux. Eh
boy!
C'est ça. Fait que.
Là, je donne ta critique, là. C'est un terrain glissant.
Non, mais je tiens à dire aux auditeurs que vous n'êtes pas obligés de venir à ma porte pour me faire des câlins, là. Vous n'êtes pas obligés de faire un line-up. Ça n'est pas nécessaire.
Juste un like sur Facebook ou un retweet sur Twitter, ça va faire la job.
Oui, ou lisez mes articles aussi, ça va faire en masse la job. Fait que, oui, j'ai pu jouer à Donkey Kong Country Tropical Freeze. Et d'ailleurs, je vais commencer en vous posant une question. Avez-vous joué à Donkey Kong Country Returns?
Pas du tout.
Non, pas tout.
Ah, ok, c'est bon. Non, parce que si vous m'aviez dit oui, j'aurais fait, c'est beau, je vais finir ma chronique comme ça. Vous avez joué à Tropical Freeze. Parce que c'est vraiment copier-coller.
Ah ouais, c'est simple.
C'est la même chose. Okay. C'est juste qu'on a mis une couche HD. C'est sûr qu'il y a des nouveautés, je vais en parler. Ça fait pas de ça un mauvais jeu, loin de là. Je pense que la formule de Donkey Kong Country Returns fonctionne toujours autant. C'est juste pas un jeu qui est très inspiré puis encore moins original. C'est pas un jeu de plateforme révolutionnaire. C'est pas un jeu de plateforme qui fait avancer le genre non plus. Mais c'est un jeu qui est vraiment le fun. Puis pour ça, je le recommande. Parce que c'est le fun. Puis parce que c'est pour ça qu'on joue à des jeux.
Moi, c'est ça. Un jeu vidéo, c'est ça en partant. C'est d'avoir du fun. Des fois, il faut arrêter de surévaluer tout puis juste avoir du fun.
Ben, c'est parce qu'à un moment donné, il faut arrêter aussi de dire « Ah, oh, c'est pas révolutionnaire. Ah, oh, on cherche toujours l'originalité, l'originalité. » Ouais, mais à un moment donné, même si tu pognes un jeu qui est pas original, mais qui est super le fun puis qui va te divertir le temps qu'il dure, ben, je m'excuse, mais c'est ça qui fait en sorte que ça fait un titre qui est recommandable. Fait que, désolé pour ceux qui n'aimeront pas Tropical Freeze à cause de son manque d'originalité, mais moi, j'ai trippé pendant le temps que ça m'a duré. Même si j'ai eu quelques moments de frustration, à un moment donné, ma TV 50 pouces a failli me foutre le camp parce que j'étais plus capable. Au niveau mise en scène, Donkey Kong Country Returns en proposait une de base, et c'est pas mal la même affaire dans Tropical Freeze, dans le sens que Donkey Kong est là avec Cranky. Cranky qui est pas très... On le reconnaît pas dans ce jeu-là. Tu sais, d'habitude, il est comme chialeux, puis
c'est ça que ça veut dire en anglais, Cranky. Ça veut dire chialeux.
Au début, pourquoi il s'appelle Donkey Kong? C'est parce que Miyamoto pensait que Donkey, ça voulait dire stupide. Donc, il voulait dire stupide singe. Finalement, il s'est comme un peu planté. Mais, fait qu'en tout cas, bref, il est avec Cranky, qui est pas grincheux dans ce jeu-là, avec Didi et Dixie, parce qu'il fête on sait pas trop combien tième anniversaire, avec une espèce de gâteau fondant en forme de banane. En tout cas, whatever. Et là, Donkey Kong arrive pour souffler sa chandelle et malheureusement, il y a un courant d'air froid qui passe dans la pièce et qui annonce l'arrivée de méchantes créatures du Nord qui ont toutes les apparences de Vikings, qui viennent envahir l'île de Donkey Kong et qui vont vraiment catapulter le quatuor hors de l'île. Et là, je vous le donne en mille, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire, notre beau quatuor?
Sauver la princesse de Bowser?
Ouais, non, exact.
Excuse, je me trompe de jeu.
Et que vous suivez pas, là. C'est non, effrayant. Ils vont devoir reprendre l'île.
Fait que ah, c'est ben ça. Oui. OK.
C'est ça, l'histoire. Fait qu'il y en a pas.
C'est pas compliqué, mais c'est
surpris. Je suis surpris.
Ah, mais tu sais, en même temps, moi, ça m'a pas dérangé parce que je m'attendais pas à une histoire, OK, avec Tropical Freeze. Comme il n'y en avait pas dans Donkey Kong Country Returns, puis c'était correct. La seule chose peut-être que je déplore depuis que Nintendo a confié la franchise Donkey Kong à Retro Studios, depuis que Rare a été acheté par Microsoft, c'est que les jeux Donkey Kong manquent peut-être un peu de personnalité. C'est super humoristique, c'est drôle, Donkey Kong a encore des mimiques qui sont fun à voir. Puis même au niveau de Donkey Kong 64, avait quand même réussi à intégrer une certaine personnalité au personnage. Avait réussi à développer un univers autour de Donkey Kong. Là, depuis les deux jeux de rétro, on a un peu oublié ça. Dans le sens que les personnages sont très quelconques, sont le fun à regarder, mais ils n'ont pas la touche magique, la personnalité, le caractère que Rare leur avait développé du temps des Donkey Kong Country sur Super Nintendo puis de Donkey Kong 64. Donc ça, j'ai peut-être trouvé ça un peu dommage. Le jeu manque peut-être un peu de personnalité, un peu d'âme, si on veut. Donc ça, petite déception, mais pas une grande parce que je m'attendais pas de toute façon à un scénario puis je m'attendais pas à un approfondissement de personnage non plus.
Juste tu me parles un peu des méchants parce que il me semble que Donkey Kong égale je tape sur le museau de crocodile, tu sais, de lézard, puis c'est ça leur méchant attitré, tu sais.
Ben, il y en a pas dans ce jeu-là.
On change l'univers complètement, on change le type de méchant. Est-ce que ça se tient? Est-ce qu'on... On les déteste, entre guillemets, tu sais. Est-ce que ça fit avec l'univers?
Non, pas partout. C'est assez direct.
Ouais, pas fait.
Non, mais dans le fond, tu sais, dans Donkey Kong Country Returns, c'était des méchants un peu, tu sais, de la jungle, mais on avait aussi, tu sais, les ennemis principaux, c'était comme des instruments de musique qui pouvaient hypnotiser. Dans Tropical Freeze, c'est vraiment des espèces d'animaux qu'on va retrouver dans les eaux glaciaires, dans le froid nordique. Tu sais, des hiboux, on va retrouver des morses, il y a aussi des pingouins, tu sais, des choses comme ça. Mais ils ont encore là, ils n'ont pas le charisme des Kremlins de l'époque. Puis Puis le gros, gros méchant de la fin, il n'y a pas le charisme de King K. Rool que Rare avait introduit dans les premiers Donkey Kong Country. Donc, est-ce que ça serait le temps de réintroduire King K. Rool dans un jeu pour que Donkey Kong le plante encore une fois? Je me pose la question.
Parce que, tu sais, Mario, là, on le sait que c'est Bowser le méchant, tu sais. Puis même si dans d'autres franchises de l'univers de Mario, sont amis, puis ils font du tag team ensemble dans des cartes, tu sais, que l'univers, tu sais, dans un jeu, il est méchant, mais dans l'autre, il est plus ou moins méchant, c'est pas grave, là. Mais dans le plateforme de base de Mario, c'est Bowser le méchant, puis il part avec la princesse, tu sais. On s'en fout de la prémisse, mais on s'y retrouve, tu sais. Il y a comme un univers qui se tient. Puis là, ben, dans Donkey Kong, pour une raison que moi, personnellement, j'ignore, on a décidé de renier cet univers-là qu'on avait créé, tu sais.
On a décidé
de... Il y a une partie de la magie, tu sais. Il y a comme une partie de la magie qu'on a dit, ben, écoute, ça, non, on la laisse tomber, tu sais. On renie ça, puis on va essayer de faire mieux, tu sais. Mais finalement...
Ben, on a fait ça depuis la fin de Donkey Kong 64. Depuis Donkey Kong 64... On n'a pas revu King K. Rool et ses Kremlins en tant qu'ennemis principaux dans un jeu Donkey Kong. Même dans Donkey Kong Jungle Beat, que j'avais adoré sur GameCube, c'était pas King K. Rool. Je sais pas pourquoi on a fait ça. Je sais pas pourquoi on a décidé de laisser tomber ce némésis-là. Moi, je l'aimais bien, là, du temps des premiers Donkey Kong Country. Là, on a décidé de le mettre de côté. Est-ce que c'est une bonne décision? Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui manque à ce niveau-là dans les plus récents Donkey Kong Country.
Parce que je suis convaincu que tu peux prendre les crocodiles puis twister, genre, ah, ils ont trouvé des armes qui glacent, puis tu sais, t'es capable de leur donner dans les mains les outils pour faire les pouvoirs que les méchants de ce jeu-là, Tropical Freeze, sont capables de faire, tu sais. Tu changes le skin, puis on arrive au même, tu sais.
Ouais, non, c'est juste que là, tu vas rebondir sur des pingouins. C'est pas mal ça. Mais au niveau du style de jeu en tant que tel, c'est vraiment la même chose que Donkey Kong Country Returns. C'est le même style de jeu, puis d'ailleurs, il y a énormément de choses qui sont directement reprises dans Tropical Freeze. Les trucs à récolter sont pareils. Les cavernes secrètes que vous allez pouvoir découvrir à travers les niveaux sont pareilles à quelques petites exceptions près. Même les boss se vainquent un peu de la même façon. C'est-à-dire que, bon, vous allez avoir votre combat contre le boss et Donkey Kong va, à la toute fin, vous allez devoir appuyer très, très rapidement sur les gâchettes pour leur donner le plus de coups de poing possible. Mais ça, c'est un concept qui avait déjà été introduit dans Returns puis qui revient dans Tropical Freeze. Fait que même la fin des niveaux, c'est toujours le même baril avec les mêmes éléments dedans que vous allez retrouver. Donc, c'est vraiment la même chose au niveau du style de jeu. C'est clair que si vous n'avez pas aimé le style de Donkey Kong Country Returns, vous n'allez pas aimer Tropical Freeze. C'est parce que c'est la même chose. Il y a encore les niveaux en cartes de mine là, qui sont un classique maintenant dans la série Donkey Kong. Puis il y a encore les niveaux avec des barils fusées qui sont un peu... qui sont quand même assez difficiles. Donc, c'est vraiment, vraiment la même chose. C'est pour ça que je dis que c'est pas un jeu qui brille par son originalité. Là. Vraiment pas. On a pris le patron de Donkey Kong Country Returns, puis on l'a repris pour Tropical Freeze. Il y a certaines nouveautés, par contre, dont des nouveaux personnages secondaires. Donc, il y a des nouveaux personnages secondaires en Dixie et Cranky. Donc, Cranky qui va pouvoir nous venir en aide pour la première fois dans toute la série. Donc, il va arrêter de taper sa tête à Donkey Kong. Pour une fois, il va y venir en aide. Donc, Dixie, elle a la même technique que dans Donkey Kong Country 2. Donc, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir planer dans les airs et nous donner un petit envol aussi. Une fois qu'on va avoir volé pendant peut-être 2 à 3 secondes. Ce qui permet d'atteindre des plateformes un petit peu plus élevées. Cranky, pour lui, ben dans le fond, c'est comme l'oncle Picsou dans DuckTales. C'est vraiment la même chose.
Il fait de l'arthrite et puis il saute dans des banques avec plein d'argent.
Ah, ça, je l'avais pas vu de même. Non, vraiment pas. OK, celle-là, je l'avais pas vu venir. Non, je parlais plus de sa canne.
Ah, OK, OK, OK. Ou sa myopie, canne. Non? C'est pas ça?
Non, pas par... Ah, Jean-Benoît, là, à ce soir, là, de vrai. Fait que non, c'est ça, Cranky, dans le fond, il va pouvoir sauter sur des méchants puis sur des surfaces dangereuses avec sa canne. Donc, tu vas pouvoir bondir avec sa canne autant de fois que tu veux, là, en condition que tu... ben, en fait, que tu chronomètes tes sauts comme du monde. Mais c'est ça que les deux vont pouvoir faire. Il y a certaines parties de niveau, puis il y a certains objets que tu vas pouvoir juste acquérir avec les techniques de ces deux personnages-là. D'ailleurs, ah oui, puis Didi revient là, avec les mêmes techniques que dans Donkey Kong Country Returns, là, il n'y en a pas de nouvelles. Donc, il y a certaines portions de niveau, il y a certains objets que tu vas pouvoir atteindre avec les nouvelles techniques de Dixie puis de Cranky. Mais c'est pas un jeu qui a vraiment été conçu pour tirer profit des techniques des personnages dans des endroits spécifiques. C'est-à-dire que la majorité des niveaux peuvent être complétés en entier, peu importe le personnage secondaire que tu vas avoir. Donc, que ce soit Dixie, Didi ou Cranky, il y a beaucoup, beaucoup de niveaux où tu vas pouvoir atteindre tous les objets récoltables, puis que tu vas pouvoir le terminer sans problème. Donc ça, je sais pas, je suis comme mitigé, c'est pas une déception, mais en même temps, je me serais attendu peut-être à plus de niveaux où ce qu'on aurait vraiment tiré profit des nouvelles techniques des personnages, tu sais. Au lieu de faire des niveaux peut-être tu sais, très standardisés où ce que, peu importe le choix de ton personnage secondaire, ben, ça va donner la même chose en bout de ligne.
C'est assez demandé, ça, si on n'a pas voulu que les gens, trouvent leur façon de jouer selon le type de personnage et puissent traverser le jeu avec leur personnage favori.
Ouais, peut-être. Mais il y a certains niveaux où tu vas juste avoir un choix de personnage secondaire. Mais il y en a beaucoup où, dans le fond, le baril que tu vas pouvoir lancer pour avoir ton personnage secondaire, ben ça va tourner, puis tu vas avoir le choix entre Cranky, Didi ou Dixie. Okay. Fait que là-dessus, je sais pas. T'sais, peut-être que, comme tu dis, c'est pour que le joueur ait le choix d'avoir son personnage secondaire favori. Il y a une autre nouveauté aussi qui sont les nouveaux angles de caméra. Dans Donkey Kong Country Returns, c'était un jeu de plateforme classique 2D où tu te promenais à l'horizontale. Maintenant, dans Tropical Freeze, il y a plusieurs niveaux où tu vas être catapulté en profondeur plutôt que juste de gauche à droite. Donc ça amène une dimension que moi j'ai trouvé intéressante. C'est sûr que c'est pas un élément très original, on l'a vu dans plein de jeux de plateforme, mais je trouvais ça quand même le fun, tu sais, d'avoir une vue en profondeur plutôt que de gauche à droite. Il y a entre autres un niveau en baril fusée justement qui prend place, je pense que c'est dans le monde 4 ou 5, je m'en rappelle plus exactement, mais en tout cas c'est dans une usine de fruits, puis c'est complètement éclaté, là. Faut vraiment que tu évites des obstacles que tu vois arriver, mais comme de loin. Fait que ça, c'est un de mes niveaux, en tout cas, que j'ai le plus aimé dans le jeu. C'est assez spécial. Fait que ça, je dirais, c'est une belle nouveauté, pas très originale, mais moi, j'ai apprécié ce nouvel élément-là qui a été introduit par Retro Studios. Là, je veux aborder un point qui fait pas l'unanimité. Qui fait l'unanimité, mais que moi j'ai trouvé un peu décevant au niveau de certaines critiques, dans le sens que il y a certaines critiques qui ont évoqué que Donkey Kong, que Tropical Freeze est trop difficile. Donc là, la plupart du temps, on dit que les jeux Nintendo sont trop faciles. Puis là, on en a un édité par Nintendo. Là, il représente un bon défi, ça je le nie pas. Puis là, on dit qu'il est trop difficile. Branchez-vous. Moi, pour ma part, c'est vrai. Le jeu est difficile à souhait, là. Quand je vous dis que ma 50 pouces a failli prendre le bord, là, c'est parce qu'il y a un niveau où ça m'a pris une heure et demie pour le faire. Pas en longueur, c'est parce que j'arrêtais pas de mourir.
Okay.
Il y a un niveau, là, je vous le dis là, pour les auditeurs, le niveau K2, il est faisable. OK? Je vous le dis, là, il est faisable. Découragez-vous pas. Vous allez arriver au bout. C'est parce qu'il demande une précision tellement accrue au niveau des sauts, Parce que dans le fond, il y a comme quasiment pas de plateforme dans le niveau. Il faut juste que tu sautes sur des ennemis. Donc, c'est vraiment difficile. Ça m'a pris 1h30. Là. J'ai calculé le temps. Là. J'étais en train de capoter. Ma blonde était dans sa chambre. Ben, pas dans sa chambre, dans notre chambre plutôt.
Vous avez le droit de faire chambre à part.
Non, hein, non, dans notre chambre, excusez. Puis, je suis arrivé dans la porte de la chambre, j'avais les larmes aux yeux, j'étais plus capable. Parce que j'arrêtais pas de mourir. Donc, mais le jeu est vraiment difficile. Le dernier monde, là, il représente tout un défi. Donc, je vous avertis, c'est vraiment pas un jeu pour les enfants. C'est un jeu qui est corsé. En multijoueur, c'est encore pire parce que. Puis en multijoueur, la difficulté est pas balancée. Dans le sens que c'est clair que si quelqu'un prend Donkey Kong puis l'autre prend Dixie, celui qui va avoir Dixie va avoir un avantage parce qu'il va entre autres pouvoir planer dans les airs. Puis d'ailleurs, si un personnage, si un joueur en fait s'éloigne trop de l'autre joueur, il va être amené automatiquement proche du joueur numéro 1. Donc c'est. En tout cas, je sais pas, j'ai pas trippé sur le multijoueur. Ça manque peut-être de peaufinement. C'est pas super. Donc, mais c'est clair que c'est un jeu qui représente un gros défi. Mais est-ce qu'il est trop difficile? Non. Et je pense que c'est un jeu qui punit, qui donne pas beaucoup de chance, mais qui met vraiment au défi nos habiletés de joueur. Puis c'est ça que j'ai trouvé intéressant. C'est pas un jeu qui est cheap, là, dans le sens, tu sais, ça fait pas exprès de te faire mourir. C'est juste qu'il faut que tu sois bon pour le compléter. Puis d'ailleurs, le jeu. Tirez profit là, de ce qu'il met à votre disposition dans les niveaux, là, puis vous allez avoir un nombre de vies qui va être amplement suffisant pour le terminer. Moi, personnellement, je suis mort là, des dizaines de fois, là, puis je me demande même si c'est pas peut-être 200 à 300 fois, mais j'ai 99 vies quasiment en permanence.
OK.
Donc, moi, ça m'a pas posé problème dans le sens, oui, je mourais, mais je rattrapais mes vies très facilement dans les niveaux. Puis sinon, il y a tellement de pièces à récolter que vous pouvez acheter des vies sans problème là, au magasin de Funky Kong. Mm-hmm. Donc, c'est pas un problème ça à ce niveau-là. Donc, moi, les critiques qui disent que c'est trop difficile, non, c'est juste un jeu qui est faite pour les joueurs qui ont des bonnes habiletés puis qui va vous mettre à l'épreuve. Puis c'est correct. Moi, je pense que ça prend des jeux comme ça aussi.
Mais il faut le savoir, puis tu fais le choix d'aller chercher en le sachant.
Ouais, absolument. Absolument. C'est pas un jeu qui tire profit du gamepad. Vous pouvez jouer avec le gamepad. Vous pouvez jouer uniquement avec le gamepad dans le sens que vous pouvez avoir le jeu sur l'écran du gamepad, mais il n'y a pas de fonctionnalité au niveau du gamepad qui sont utilisés. Okay. Donc, dans le fond, ça, c'est zéro, puis Retro Studios l'avait annoncé. Puis, il y a beaucoup plus aussi, puis ça, c'est mon dernier point, il y a beaucoup plus de niveaux aquatiques maintenant.
Non! Non!
Ben, oui, il y a des niveaux aquatiques, puis je le sais que tu les aimes, les niveaux aquatiques, puis dans Tropical Freeze, tu vas les adorer, les niveaux aquatiques. Sont difficiles. Sont vraiment difficiles. Donkey Kong se manipule pas super facilement dans l'eau. Attachez votre truc pour les niveaux aquatiques, mais honnêtement là, le jeu est très beau là. J'ai dit que les niveaux aquatiques c'était mon dernier point, mais finalement c'était mon avant-dernier point parce que je veux juste parler du graphisme en HD. C'est très beau, c'est très léché, les couleurs sont vives. Moi, ma blonde, à un moment donné, elle regardait l'image puis elle fait tabarnouche, c'est vraiment une belle image de jeu. Puis quand ma blonde dit ça, tu sais, je le sais que je suis devant un jeu qui a de l'allure. Donc c'est une très très belle image. Le poil de Donkey Kong, on dirait qu'il est sorti de la sécheuse.
Ok, il est fluffy là.
Il est fluffy Donkey Kong. il est fluffy puis son poil il brosse, tu sais, c'est le fun à voir.
Tu vois ça où il y a un banc de scolabre à lui?
Ouais, c'est ça.
Quand tu dis qu'il sort de la sécheuse, il y a un banc de scolabre.
ça où je pensais aussi aux annonces de Charmin là, avec les ours qui ont des.
Ah ouais, c'est vite, vite toilette qui allait aux fesses. Hein.
Ouais, c'est ça. Bref, parce qu'eux autres aussi sont fluffy. Mais ils sont super beaux. Puis pourquoi je voulais faire le lien avec les niveaux aquatiques, c'est qu'il y en a un, entre autres, là, le contraste des couleurs. Des couleurs pastel avec les jeux d'ombre et de lumière, là, c'est vraiment, vraiment beau. On avait utilisé un peu le même contraste dans Donkey Kong Country Returns avec les niveaux qui prenaient place quand le soleil se couchait. Mais ce niveau, il y a un niveau aquatique, là, je vous le dis, c'est vraiment, vraiment beau. D'autant plus qu'on a utilisé la musique remixée des premiers Donkey Kong. Fait que ça crée vraiment une ambiance qui est, je vais le dire de même, là, féerique. C'est beau, c'est...
Féerique, mais dans un univers à la difficulté diabolique.
Oh, j'aime ça, ça. J'aime ça. Fait que oui, on peut dire ça comme ça, mais c'est très beau comme jeu, incluant musicalement. C'est vraiment de haut niveau. Puis c'est super, c'est un bon move de la part de Retro Studio d'avoir réengagé le compositeur original de Donkey Kong Country. C'est un bon move. Puis moi, je vous le dis, c'est pas un jeu facile, c'est pas un jeu original non plus, mais c'est un jeu qui est vraiment le fun, puis je le recommande. D'ailleurs, dernier bon point pour Retro Studios, ils ont enlevé le maudit souffle de Donkey Kong qui était inutile. Tu sais, dans le sens que dans Donkey Kong Country Returns, tu pouvais l'accroupir puis il pouvait souffler. Ça n'avait aucun but, là. Ça n'avait même pas rapport. Là, on peut arracher des espèces de bouchons de terre. Je trouve ça plus violent, ça corde plus avec Donkey Kong. Donc, moi, j'aime ça. Donc, technique, merci, vous avez enlevé le souffle. Merci d'avoir inclus l'espèce d'arrachage de bouchons.
Vas-y donc une note, Daniel.
8.5 sur 10. Bon jeu. Ceux qui aiment les Donkey Kong Country, d'autant plus ceux qui ont aimé Donkey Kong Country Returns vont vraiment apprécier ce jeu-là. Moi, je le recommande sur la Wii U. C'est un bon jeu.
Non, ben tant mieux. Moi puis Luc, on avait déjà jasé de ça un peu ensemble. On se disait, quand il y a des Humble Bundle, faut qu'on en parle. Qu'on le dise. Ça va pour une bonne cause. Puis souvent, d'un, c'est pas cher. Vous donnez le montant que vous voulez. On dit à partir de tel montant, vous débloquez un petit plus, là, des jeux supplémentaires. Habituellement, c'est pas très cher. En bas de 5-6$, tu t'en sors avec la totale du bundle. Puis souvent, il y a des belles petites surprises là-dedans. Et le nouveau, je sais pas si tu l'as vu, Luc, le 11.
Ouais, j'ai pas été. J'ai vu rapidement, mais j'ai pas été voir ce qu'il y avait dedans.
Il est génial. Il y a là-dedans Dust and Elysian Tale, que j'avais déjà fait la critique dans Réalité Augmentée. Un excellent jeu plateforme-aventure, un peu de style Metroid là, avec du backtracking. On débloque des nouvelles aptitudes qui nous permettent d'avancer à des endroits où est-ce qu'on ne pouvait pas auparavant. Très, très joli. C'est fait par Humble Heart. C'est un couple, sont deux. Ils ont fait le jeu au grand complet. Allez voir les images. Dust and Elysian Tale. Vous allez voir les images, là, c'est très très joli. On dirait que c'est dessiné à la main. Là, ils ont fait du beau travail là-dessus. Gianna Sisters Twisted Dreams, un platformer à la Mario. C'est comme le penchant féminin de Mario. J'en avais fait la critique aussi. Là, c'est un autre très très bon jeu. The Swapper, c'est le seul que j'ai jamais entendu parler dans tout le bundle, c'est vous dire. Anti-Chamber, qui est un genre de jeu de réflexion. On a un peu à la Portale, tu sais, un genre de gun qui nous permet de faire quelque chose. C'est un jeu d'énigmes à la première personne. Le gun, tu peux prendre des blocs de différentes couleurs qui ont différentes caractéristiques qui vont nous permettre remplir les énigmes. J'ai joué un peu très corsé. Si vous avez le goût de vous casser le coco, là, ça peut être une bonne idée. Monaco, What's Your Mind? C'est un jeu d'aventure. C'est un peu à la vue, là, comme les deux premiers GTA. Là, vue du dessus, toute la map, faut que tu essaies de passer les différents niveaux. Il y a des gens qui te courent après. Très, très éclaté aussi comme univers.
Mais les graphismes sont très ordinaires. Là. C'est vraiment 8 bits
à l'os. Oui, c'est voulu comme ça.
C'est le fun.
Un jeu avec une belle petite mécanique. Et le dernier titre, c'est l'objet de ma critique de cette semaine, Guacamelee. Et c'est la Gold Edition, donc avec toute la patente dessus. Actuellement, là, au moment où est-ce qu'on se parle, il vous reste 12 jours. Donc, c'est à ne pas rater, sincèrement. Là, ça vaut vraiment la peine. On parle donc là, d'une fin le 3 avril prochain, que ça devrait se terminer. Le 3 ou le 2, là, j'essaie de...
Ouais, je pense que c'est le 3 avril?
Ouais, le 3 avril que le bundle va se terminer. Alors, okay. Si vous avez la chance. Et pour 4,46, si vous payez plus que ça, donc une scène de plus, c'est fait. Vous avez tout l'ensemble des jeux. Ça vaut vraiment la peine. Et en plus, ça va pour une bonne cause, soit dit en passant. Electronic Frontiers Foundation et Charles Play Charity. L'argent va en bonne place. Puis vous allez avoir du fun là-dessus, là, ce Humble Bundle-là. Je pense que, à part celui avec les Batman qu'il y a eu il y a quelques temps, je pense que c'est le meilleur qu'il y a eu depuis le début. Là. C'est tous des jeux indépendants, c'est vraiment génial.
Ce qui est le fun, c'est que ces multiplateformes sont toutes Windows, Mac, Linux.
Exact. Donc, dépendamment de ce que vous avez comme système, il n'y a pas de trouble, vous êtes capable de jouer.
Ouais, puis si vous dépensez 4,47$, Vous allez avoir toutes les bandes originales aussi qui viennent avec.
Ah, c'est vrai, ouais, c'est ça, j'ai oublié ce bout-là. T'as la musique des jeux, fait que c'est quand même très cool.
Ah, c'est bien intéressant.
Ouais. Et Guacamelee, je vous en parle aujourd'hui, c'est un addon. Sincèrement, j'avais déjà prévu, je l'ai traversé. Je l'ai pas pogné dans le Humble Bundle. Dommage, mais bon, je l'ai payé plein prix. Tant mieux pour les créateurs du jeu. Ils n'en seront que plus heureux. Ils vont avoir fait un petit peu plus d'argent grâce à moi. Qu'est-ce que tu veux? Ça arrive parfois. Il s'appelle Drink Box Studios. C'est une boîte qui a pas nécessairement grand chose à son actif. C'est pas les plus connus non plus. C'est pas. C'est une petite boîte
c'est
indépendante.
C'est un développeur canadien.
En plus, je savais pas que c'était canadien. Ouais. Ben écoute, j'en apprends, merci. Non, très content de savoir que c'est canadien.
I'm
proud
basés.
To be Canadian.
Oui, hein, d'autant plus que l'équipe canadienne de hockey a planté la Lettonie.
Oh, oui, solide.
Whatever. Le studio dont tu parles sont basés dans la région de Toronto.
Ah, bon. Ben, c'est cool. Guacamelee, c'est quoi? C'est l'histoire d'un luchador. On est donc dans l'univers mexicain, le sud, l'Amérique du Sud, tu sais, les lutteurs mexicains, là, avec les masques, cette mythologie-là. Tout le monde tripe là-dessus. Puis là, ça joue de la guitare sèche. Puis il y a des maracas partout. Il y a des piñatas. Et on est un frêle genre d'agriculteur qui, dans sa jeunesse, jouait avec la princesse, la fille du roi. Le roi, mère, c'est un peu mélangé, c'est pas bien grave. Et elle, ben écoute, avec le temps, veut pas sa situation familiale, le fait qu'elle a dû partir au loin, tu sais, des missions diplomatiques. Et il y a eu les ponts ont été coupés entre les deux. Et à un moment donné, les deux se recroisent et cette même journée-là, parce que rien n'arrive par hasard dans le jeu vidéo, il y a un démon qui décide de la kidnapper pour pouvoir la sacrifier et devenir l'ultime méchant de l'univers et contrôler le monde. Donc notre bon ami va tenter, lui, de contrecarrer ses plans, mais il est faible, tellement fragile, se fait battre du revers de la main par le grand boss et meurt. Ça commence de même, on meurt direct en partant. Ce que le grand méchant ne sait pas, et c'est ce que le joueur va découvrir, c'est qu'au royaume des morts, on a décidé de ne pas nous laisser mourir. Et il y a une prophétie qui va s'enclencher et on va découvrir le masque de luchador légendaire. Et on deviendra celui-ci. On va passer d'un frêle personnage à un bonhomme musclé qui est capable de mille et une capacités. C'est un jeu de type platformer, un peu de Metroidvania aussi, là, on fait recherche avec des nouvelles capacités, on revient sur nos pas du backtracking, on débloque des objets et on a des capacités spéciales. Ce jeu-là est empreint d'un humour vraiment fantastique, c'est vraiment très très drôle. D'un, il y a des clins d'œil à tout bout de champ, des clins d'œil envers les Zelda, envers les Mario, envers les jeux indépendants, il y en a plein. On voit des affiches de combat avec les Brother Wario qui font un combat tag team samedi prochain à tel temple. Tu sais, il y a plein d'affaires de même, c'est vraiment très très drôle. Beau petit clin d'œil à plein de jeux dans ce titre-là. Et notre coach, celui qui va nous apprendre les techniques spéciales quand on va détruire ces statues, c'est une chèvre légendaire qui va nous apprendre les différentes façons de pouvoir combattre.
Mais regardons ça, une chèvre.
Ouais, une chèvre. Les chèvres et leurs simulateurs sont en train de conquérir le monde.
C'est foulotte.
Et on
prochaine étape, les girafes.
Oui, écoutez Parlons Balado pour savoir c'est quoi le lien avec les girafes.
Mais je regarde les images de Humble Bundle, je suis content que le bonhomme de Kudo s'est trouvé une nouvelle job.
Le bonhomme de Kudo?
Le petit lutteur dans les annonces de Kudo Mobile.
C'est vrai, hein?
Je trouve ça le fun si tu as trouvé une nouvelle job.
Ouais, non, c'est ça.
Ça a l'air intéressant.
Une deuxième carrière.
Celui qui relaxe autant des fêtes d'avoir un foyer.
Exact.
Ouais, c'est
après
ça.
Avoir pelleté dans le train,
il reste dans le jeu. Là.
Ouais, où est-ce que j'étais rendu? Là, tu m'as coupé. Là, de quoi je parlais? Oui, la chèvre. Elle va nous apprendre des techniques spéciales. On a des techniques de combat de base qui n'utilisent pas de nos capacités. On est comme, on est comme de l'énergie. T'sais. On peut faire un X nombre de coups. Ces techniques-là de base ne l'utilisent pas. On ne se fatigue pas. Et on a des techniques spéciales qu'on va débloquer au fur et à mesure du jeu. Une technique en rouge, et c'est assez important parce que ça va devenir une des mécaniques du jeu primordiale. Une technique en rouge qui consiste à faire un genre de saut avec le poing dans les airs. Donc, comme un double saut avec cette technique-là, ça va nous permettre de casser des briques en rouge en les pétant par en dessous avec cette technique-là, en sautant avec le point rouge. On a une technique aussi, un dash vert qui est sur les côtés, donc ça nous permet de se propulser vers la gauche ou vers la droite. On a une technique vers le bas qui nous permet de faire une genre de descente du coude et de casser des blocs bleus, c'est la technique bleue. Et on a une technique en jaune, c'est comme en étant sur place, en bougeant pas, on décolle cette technique-là et on donne un coup de tête pour assommer son adversaire et qui va permettre de débloquer, de casser des briques de ce type-là. Ça va nous amener à avoir certains endroits où on va voir ce genre de briques-là. Et tant qu'on n'a pas la capacité, on ne peut pas traverser à cet endroit-là et aller chercher les différents secrets. Et on a aussi une capacité qui est bien, bien cool, qui nous permet de se propulser d'un mur vers le côté opposé, telle une fusée, pendant une longue période de temps. Ça va devenir bien pratique. On a aussi, un moment donné, on se fait coincer par la malédiction et on se fait transformer en poule. Et on peut donc, à certains moments, se transformer en poule, se retransformer en humain, utiliser nos capacités. Donc, on finit par débloquer un éventail de possibilités assez grand. Donc, c'est un platformer, mais avec un petit plus. Et avec la barre de fatigue, ben ça, c'est qu'on va pouvoir combiner les différentes attaques pour les faire une après l'autre, pour pouvoir se rendre à différentes plateformes, se rendre à différents objectifs qu'on va nous mettre tout au long du jeu. Le code de couleur est assez important aussi dans la façon de combattre les ennemis, parce qu'on va avoir des ennemis de base, qu'on va pouvoir attaquer avec n'importe quelle technique, et ça va fonctionner, même les trucs de base qui n'ont pas c'est pas des capacités spéciales, là, même les trucs de base vont pouvoir les attaquer, et on va venir qu'à avoir des ennemis avec des boucliers. Et pour péter ces boucliers-là, selon la couleur, on va devoir utiliser la technique appropriée. Il y a même des ennemis que, une fois que tu pètes le bouclier, après un laps de temps, il va se reformer, puis il sera peut-être pas la même couleur. Ça amène un dynamisme, ça amène un renouvellement au style de combat, et surtout un niveau de difficulté quand même subséquent. Graduel, mais quand même subséquent. À la fin du jeu, c'est assez retard, là. Ça prend du doigté, mais tout ça se fait de belle façon. On apprend tellement graduellement qu'on se perd pas dans les techniques. C'est toujours la même façon de les faire. C'est un bouton plus la direction du joystick. Donc, c'est pas mêlant. Faut juste faire la bonne puis se rappeler laquelle est à la bonne place, mais c'est lent comme processus d'apprentissage. Donc, ça se fait bien. C'est une belle inventivité dans la façon de procéder pour ça. Donc, c'est bien, bien cool de ce côté-là. Côté histoire, t'es assez tranquille comme histoire. On s'entend, là, sauve la princesse, ramène-la, puis merci, bonsoir. Sauf que avec l'humour qu'il y a dans le jeu-là, c'est vraiment hot. On a hâte d'aller voir les ennemis, les différents boss, qu'est-ce qu'ils vont avoir à nous dire, pour quelles raisons ils font ça. Il y a une twist dans l'histoire, puis il y a bien du fun à avoir avec les à côté, tu sais, tout ce qui est les petits clins d'œil. Et dans l'histoire principale, l'humour est vraiment très, très présent dans ce jeu-là. On se prend pas au sérieux. Quand tu te transformes en poule, tu peux être violent en poule puis crever des yeux. On dirait qu'on est issu d'un Zelda, là, tu sais, quand tu attaques les poules puis ils finissent par avoir la rage contre toi. Tu peux faire un peu ça là, dans ce jeu-là. Fait que c'est bien, bien drôle de ce côté-là. Il y a tout l'univers des Luchadors en plus, cette mythologie-là qui est bien utilisée. C'est un genre d'univers qu'on a que très rarement dans le jeu vidéo. Fait que c'est le fun d'aller l'approfondir. Ça, de ce côté-là, ça amène un petit nouveau. T'sais, c'est un jeu, somme toute, qu'on aurait pu faire avec différents univers, qu'on aurait pu sortir il y a 10 ans, puis qui aurait très, très bien fonctionné dans un autre univers. Puis on le sort avec cet univers-là, puis ça fonctionne aussi très bien, là. C'est un jeu, dans le fond, qui est commun, mais qui a des belles twists. Pis ça, c'est le fun dans ce temps-là. On va avoir un système de leveling aussi pour développer des aptitudes, développer, améliorer genre sa barre de vie, sa barre d'énergie, des choses comme ça, pour que notre personnage devienne de plus en plus fort. Alors, tranquillement, pas vite, on va pouvoir affronter plus d'ennemis, des ennemis plus forts, tandis qu'au début, on se ferait clencher. Au début, on va souvent prôner là, le fait de disparaître, de sauver au lieu d'affronter les ennemis. surtout quand il y en a une grosse gang. Et les ennemis, quand on les tue, on ramasse de l'argent qui nous permettent d'acheter des capacités ou des trucs, des goodies dans le jeu. Il n'y a pas de transactions online, des choses comme ça. Il n'y a rien de ça. Tout est 100% dans le jeu, là. Donc, il n'y a pas de problème. Vous n'aurez pas à sortir votre portefeuille. Et on va aussi gagner de l'énergie en tuant les ennemis. Donc, pas de l'énergie, mais des genres de XP pour s'améliorer. Il n'y a pas vraiment d'univers, il n'y a pas de monde. On va vraiment, dans le fond, être lancé dans un univers qui se contient à lui-même. Il n'y a pas de « Ah, je suis dans le monde 1, ah, je suis dans le monde 2 » avec des thématiques différentes de l'un à l'autre. Tu as une map, puis tu traverses d'un coin à l'autre, puis tu te diriges vers les différents endroits dans l'univers. Tout est en 2D. Pour te rendre genre... au nord, ben, tu vas sauter, tu vas aller vers le haut, puis tu vas te rendre. Et ça fonctionne bien, l'univers, la map est bien faite. En plus, on va pouvoir passer du monde des vivants au monde des morts tout le long du jeu. Fait que, tu sais, on va beaucoup jouer là-dessus. Il y a des choses qui vont apparaître dans un monde qui seront pas là dans l'autre. Avec les différentes capacités, on va pouvoir donc faire des énigmes un peu dans le jeu de plateforme pour pouvoir avancer. Fait que ça, c'est cool. C'est un bon petit jeu de ce côté-là. C'est très dynamique aussi. Beaucoup d'ennemis, quand tu sors de l'écran puis tu reviens, les ennemis se sont régénérés ou non. Ça va dépendre du type d'ennemi et de l'endroit où est-ce qu'on se trouve dans le monde. Et le nombre d'écrans qu'on a fait depuis qu'on l'a fait. Si on est dans un donjon, là, quand tu as traversé une salle puis que tu as tué des ennemis, ils reviennent pas. Mais dans l'univers plus global, le monde central, ils vont se régénérer si tu reviens sur tes pas. Dans les choses plus négatives, je vous dirais que il y a des endroits bonus pour aller chercher certains objets magiques plus particuliers pour aller débloquer des objets. Donc, et ces salles-là bonus peuvent devenir extrêmement difficiles. C'est faisable. J'ai réussi à y arriver à force d'efforts, mais ça peut mettre votre patience à mal. Et l'autre truc, j'aurais voulu qu'il soit plus long. C'est à peu près le seul défaut que je trouve à ce jeu-là. J'aurais aimé en avoir plus long. Ça me prie pour traverser, là, avoir 100%. Je l'ai fait genre en 12 heures pour avoir tout dans le jeu, tout avoir trouvé. Donc, c'est pas nécessairement très long. Et à la qualité du titre, après le 12 heures, tu te dis « Hey, j'en aurais pris un autre 8 pour avoir un 20. J'en aurais peut-être pris plus parce que c'était le fun. » Donc c'est
quand même deux Call of Duty.
En longueur. Oui, c'est ça. Hein. À cette heure-là, maintenant, je pense que les jeux, on calcule plus ça en temps, on calcule ça en Call of Duty. On va y aller de même. Donc, deux Call of Duty, c'est quand même pas pire. J'en aurais pris trois.
OK.
Je suis jamais satisfait. Hein. Jamais. Donc, et voilà pour Guacamelee. Vous allez avoir du fun, c'est convaincu. Si vous aimez les plateformers, si vous aimez les jeux de combat, là, les genres de beat'em all, vous allez avoir du fun là-dedans. Les button smashing aussi. Il y a différentes techniques, mais tu peux faire du rentre dans le tas. C'est le fun. L'humour est présent. C'est coloré. C'est beau. Il n'y a rien de négatif dans le jeu, là. J'ai embarqué, je n'avais entendu parler, puis je me demandais, je fais-tu la petite dépense? Est-ce que je saute dans l'aventure? Puis je le regrette tellement pas. Ce jeu-là est une belle découverte à faire. Vous devez jouer à ça. Puis en plus, à même pas 5$ pour le Humble Bundle au grand complet, avec tous les autres jeux qu'il y a là-dedans, qui sont écœurants, qui sont super bons, ça vaut vraiment la peine, là. Vous avez dans ce Humble Bundle-là 6 jeux. Pour 5$. C'est même pas 1$ du jeu. Ça vaut pas la peine de pas l'acheter. T'sais. Surtout pour la qualité des titres qu'il y a là-dedans. Et Guacamelee est un autre argument pour ça. C'est un excellent jeu. Je vais y aller avec un solide 9.5 sur 10 pour ce type de jeu-là, pour un jeu indépendant, pour l'envergure qu'il a, pour tout ce qu'il nous offre. C'est une franche réussite.
Ben, c'est pas pire. On est allé en montant. 7.5, 8.5, 9.5.
Ce qui est le fun aussi, la diversité d'ennemis, tranquillement pas vite, les boss qu'on affronte, c'est pas toujours les mêmes. Il va y avoir des twists avec certains. Avec les boucliers en plus qui finissent par s'ajouter, les boucliers magiques, ça amène une diversité aussi dans le gameplay. Fait que c'est pas tout le temps la même affaire. C'est ça qui est plaisant. Donc, c'est vraiment cool de ce côté-là. Il y a une belle évolution. C'est un jeu qui se prend bien en main, qui est facile au départ, mais que c'est tellement graduel que tu le sens pas que ça devient dur. Puis, à un moment donné, là, tu fais comme « Oh, OK, je viens de pogner une place où est-ce que je rush vraiment. » Il y a des mécaniques de jeu qui sont dans la façon de traverser les parcours qui sont... tu sais, de la façon que le jeu est pensé, il y a des twists des fois que c'est vraiment génial. C'est vraiment des bonnes idées bien mises en place. Donc, pour vrai, là, à moins d'un dollar pour ce jeu-là, vous n'avez pas le droit de pas jouer.
Non, c'est... Je me rappelle, c'était mon titre indépendant de 2013, puis c'était clairement... D'ailleurs, petite plug, là, j'en avais fait un article, mais ça fait partie de mes jeux sous-estimés de 2013.
Ben oui, non, c'est tellement un bon jeu, sincèrement. Ouais. Puis, autre coup de cœur, Dust Nelesian Tale, qui est somme toute pratiquement le même jeu. C'est le même type de jeu. C'est vraiment pas le même type d'histoire. C'est vraiment pas le même type de graphisme. Pas le même type d'humour. Mais c'est le même genre de jeu. Si vous avez aimé Guacamelee, vous allez aimer Dust et vice-versa. Écoute, c'est un autre chef-d'œuvre. Juste pour les images, juste pour les graphismes de jeu-là, ça vaut tellement la peine d'encourager ce couple-là qui ont produit le jeu. Donc, allez-y. Il n'y a pas de questionnement à avoir là, avec Guacamelee et ce Humble Bundle 11. Allez-y. Moi, je pense que je vais le racheter juste pour encourager la cause. Puis, il y a Monaco. Que j'ai pas, puis de Swapper. Fait que, tu sais, ça va me coûter 2,50 par jeu.
Ouais, Monaco, je l'ai joué sur Xbox. C'est intéressant.
Ok.
C'est intéressant.
Ils jouent en coop, hein?
Oui, tu peux jouer en coop.
Ok, c'est cool.
Tu peux être chacun un personnage. C'est le fun, ça prend des personnages différents pour finir l'émission. Chaque personnage a des talents différents. T'as le voleur, t'as t'as la personne qui est capable de hacker des coffres forts, des choses comme ça. T'as différents. Habiletés qui te permettent de sortir des niveaux.
OK. Donc,
c'est fun.
Donc, à ne pas manquer ce Humble Bundle 11, là, c'est une belle petite mine d'or des jeux méconnus, mais qui méritent de l'être. C'est approve de la réalité augmentée.
Ça arrive de temps en temps.
Ah ouais, hein, ouais.
Juste comme ça, juste pour... j'ai eu un flash, justement, quand on parlait de la Wii U tantôt. ceux qui n'auraient pas fait les mises à jour sur leur Wii U, faites-le parce que depuis, bon, ça doit faire un mois ou deux, là. Si vous faites la mise à jour de votre Wii U au dernier firmware, vous pouvez jouer les jeux de Wii directement sur le gamepad. Ça devient la télé.
OK.
Mais il faut contrôler quand même avec la manette de Wii, là. La manette rectangle, la manette ordinaire, mais le gamepad peut devenir une télé au lieu de jouer sur la télé. Fait que les gens qui voudraient, bon, vous pouvez pas contrôler vos personnages avec le gamepad, ce qui est un peu plate, mais vous pouvez mettre le gamepad sur vos genoux puis jouer avec la manette de Wii régulière, là, comme j'ai joué à Mario, Super Mario Bros. Wii comme ça.
Ok, personnellement, je pense que c'est un gros plus, juste pour la durée de vie de la batterie du gamepad, et que, ben, écoute, on s'entend, là, c'est une grosse manette à avoir entre les mains, là, fait que pour le côté agréable de jouer, là, ça a comme un impact quand même, là.
Ouais, c'est juste plate parce qu'il faut utiliser absolument une deuxième manette. C'est vraiment, ça devient vraiment juste comme une petite télé. Ça monte le graphisme, puis vous regardez de la gamepad au lieu de regarder votre télé, mais il faut quand même jouer avec la manette de la Wii U.
Ouais.
Parce que les jeux les manettes de Wii, parce que le gamepad n'est pas compatible du tout avec les jeux de Wii originaux.
Okay.
Mais c'est ça.
Bon,
c'est juste un petit inside de même.
Quand même intéressant pour les propriétaires de Wii U. C'est le fun qu'ils continuent à avoir de l'innovation avec la console, même si elle est déjà sortie. Ça n'en prend pour Nintendo.
Oui. Une belle petite console, pareil.
Hey, on est-tu en mesure de mentionner notre invité de la semaine prochaine? C'est-tu confirmé?
Oui.
Ouais? Veux-tu y aller? Ouais, dis-nous ça, Luc.
Mais la semaine prochaine, on va avoir Julie, justement, de Nintendo Canada, qui va venir nous parler des prochaines sorties de jeux.
Nintendo est pas mort, ils ont fait un Nintendo Direct et on va en parler en long et en large la semaine prochaine, donc à ne pas manquer dans la réalité augmentée. Dis-moi, Daniel, où est-ce qu'on peut te retrouver sur le web?
Ah, sur le web?
Dans la vraie vie aussi, là, si tu veux le dire.
Non, je veux pas le dire, mais vous pouvez... c'est pas, j'aime ça, plugger une couple de sources d'inspiration dans lesquelles vous pouvez me retrouver. T'sais, dont la Bible. Mais sinon, vous pouvez me retrouver sur Twitter à DracoADG. Mon nombre de followers n'a jamais été aussi élevé, mais j'en prendrai encore quand même une coupe. Sinon, sur affairesdegas.com, dans la section, principalement dans la section techno jeux vidéo. Donc, je publie quand même régulièrement et des beaux petits articles de criminels. Aussi que je publie, d'habitude c'est le vendredi, dont le prochain qui va être assez macabre. Tu sais, j'en ai vu dans ma vie là, des histoires de criminels là, dont je fais partie, hein, vous le savez.
des histoires que t'as orchestrées. Là.
Mais la prochaine m'a particulièrement levé le cœur. Fait qu'à suivre.
C'est à suivre. Comme
dirait l'autre. C'est intéressant quand quelqu'un qui voit ça la journée longue t'a dit que ça y a levé le cœur. C'est assez intéressant.
Sérieusement, je faisais mes recherches, là, puis j'ai écouté un documentaire aussi sur. En fait, c'est un couple de tueurs. J'ai vraiment eu mal au cœur. C'est pas des jokes, là, c'est pas genre. C'est pas une métaphore, là, j'ai vraiment eu mal au cœur.
Okay.
Fait que c'est ça.
Avis à ceux qui ont le goût de se lever le cœur.
Non, mais c'est une histoire intéressante, puis évidemment, mon article va être écœurant, là, mais ça...
Sans fausse modestie.
Ouais, non, c'est ça. Mais c'est à suivre. En tout cas, vous verrez ça sur Affaires de gars.
OK. Luc, toi, de ton côté?
Ben, sur Twitter, c'est AskAlazormo. Puis sinon, ben, vous pouvez aller me lire sur le blog de Kijiji. J'ai commencé à écrire des articles automobiles une fois par semaine. Donc, vous allez au fr.kijijiblog.ca dans la section véhicules. Vous pouvez me lire une fois par semaine. Tous les jeudis, il y a un nouvel article qui va sortir pour bon, au moins l'année. On verra plus pour après. Puis c'est à peu près ça. Vous pouvez m'entendre ce merveilleux programme aussi qui est La Réalité Augmentée, mais ça, vous le savez.
Ben, merveilleux est le terme, je crois. Hein? C'est tout
ouais.
à fait approprié.
Oui, c'est ça. Puis vous pouvez nous entendre aussi sur l'épisode numéro 3 de Parlons Balado.
Oui, on le répète. Merci beaucoup, la gang, de nous avoir invités. Ce fut vraiment très, très cool.
Ouais, il y a eu bien du fun à parler de girafes, de la savane et de toutes sortes d'affaires qui n'ont aucun rapport avec le podcast.
Ah oui, on a vraiment dérapé. Hein?
Mais je sais pas. OK, j'y étais pas là.
Oui.
Tu l'écouteras, oui. Ouais, il fallait que tu viennes nous remettre à l'ordre. T'étais pas là pour le faire.
Ça fait qu'on a dérapé, là.
Ouais, on a vraiment hijacké le show, là.
ils seront plus jamais les mêmes, man. C'est non, plus jamais.
Plus jamais on va se faire inviter nulle part non plus.
Ça signe la fin de nos collaborations externes.
Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu veux?
Toi, JB, on peut-tu te retrouver sur le net?
Partout. Je suis, bien sûr, celui qui gère le compte officiel de La Réalité Augmentée sur Twitter, @RealitéHog. On a un compte sur Facebook aussi, facebook.com/RealitéHog. On a une adresse courriel, podcastrealitéaugmentée@gmail.com. On a un site web avec pas grand-chose, si ce n'est les épisodes de La Réalité Augmentée, soit sur le realitéhog.com. Et on est sur bien des sites web, bien des plateformes, bien des antennes de radio. On est partout. On est en train de conquérir le monde un pixel à la fois. Donc, ça s'en vient. Soyez assurés qu'éventuellement, on va régner sur cette planète. Et
avec notre armée de chèvres.
Oui, bien sûr.
Et de girafes. Faut quand même voir loin.
Oui. Faut voir prévenir les coups puis tout. Non, c'est stratégique. Donc voilà pour La Réalité Augmentée. Un jour, on sera dictateur de cette belle planète. Pour avoir essayé d'être gentil. Peut-être.
Ouais, à te connaître, je suis pas sûr.
Ouais.
Sauvez vos peaux et ils font des explorations de Mars bientôt, inscrivez-vous.
Oui, sauvez-vous. Donc voilà, c'est ce qui complète pour l'émission de cette semaine de La Réalité Augmentée. Merci les boys d'avoir été des nôtres avec moi pour ce beau programme.
Merci à toi.
Merci à tous les auditeurs, aussi nombreux êtes-vous, parce qu'on sait que vous êtes des tonnes et des tonnes. On calcule plus ça en nombre, on calcule ça en poids. Ça n'a pas de bon sens. Donc, vous êtes vraiment nombreux. Merci de nous donner tout ce love, tout cet amour et de nous suivre ainsi. Partager la bonne nouvelle qu'on existe aux gens que vous aimez ou aux gens que vous n'aimez pas. Mais ça, c'est selon. Donc, à une prochaine fois dans un autre élément de La Réalité Augmentée. À bientôt. Salut, là.
Bye.
Bye.